Nous reprenons le texte de la Bible que nous avons laissé hier soir avec la guérison des 10 lépreux. Nous raccrochons la lecture là où nous l'avons quittée et nous lisons dans ce même chapitre 17 de l'évangile de Luc et au verset 15, en parlant donc des 10 lépreux, je le dis pour ceux qui malheureusement n'étaient pas avec nous hier soir, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ces 10 hommes ont connu l'intervention de Dieu d'une façon miraculeuse et, il faut le dire, spectaculaire. Mais des 10, le Seigneur ne peut dire qu'à l'un d'eux, « Ta foi t'a sauvé. » Les 10 sont entrés dans une intervention de Dieu, dans une bénédiction de Dieu, mais un seul des 10 est entré dans le salut éternel. Et c'est la question de Jésus qui va retenir notre attention ce soir. Et les 9 autres, où sont-ils? Le Seigneur n'a pas posé la question parce qu'il ne savait pas où ils étaient, il le savait très bien. Notre Seigneur est omniscient. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à tout un nom. Il connaît la trajectoire des astres errants. Il connaît le nombre des cheveux de notre tête. Il connaît la minuscule diatomée au fond de la mer. Il lui prête sa forme, il lui donne sa vie. Le Seigneur sait qui nous sommes et où nous sommes. D'ailleurs, dans le psaume 139, il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Le Seigneur Jésus savait où ils étaient, ces 10. Mais il a posé la question avec une tristesse qui a dû percer dans sa voix. Et les 9 autres, où sont-ils? C'est pour nous que le Seigneur pose la question, pas pour lui. Il la pose pour nous instruire, pour nous associer à son œuvre. Et plus d'un serviteur de Dieu a connu la même souffrance parce qu'il a dû poser la même question. Où sont ceux à qui j'ai parlé de l'Évangile l'année dernière? Où sont ceux qui, il y a 6 mois, venaient s'asseoir sur les bancs de cette église? Où sont ceux qui, il y a 1 mois encore, unissaient leur chant au nôtre pour faire monter ces belles mélodies d'amour vers le ciel? Où sont-ils ceux qui, il y a 1 semaine, montrer quelque intérêt pour le salut de leur âme? Où sont-ils, ces gens qui ne sont plus jamais revenus? Et cette question en fait naître une autre. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Qu'est-ce qui les a retenus loin de cet évangile qui pouvait leur apporter un bonheur présent et éternel? Alors, pourquoi ne sont-ils pas revenus? La question nous est posée pour que nous allions à leur recherche, et c'est ce que je vous propose de faire. Nous allons aller demander aux 9 autres pourquoi ils ne sont pas revenus. Vous allez peut-être dire, mais où va-t-on trouver ces 9 hommes? Ils ne sont pas dans la Bible, et vous le savez aussi bien que moi. Mais voyez-vous, ces 9 hommes ont existé de tout temps. Ils existaient du temps du Seigneur, ils existent de notre temps et ils sont peut-être parmi nous ce soir. Qui pourrait dire qu'il n'a jamais été au bénéfice d'une intervention de Dieu? Certains pourraient citer des épisodes de leur vie où Dieu véritablement les a conduits, leur a fait du bien, est intervenu, a fait quelque chose pour eux de façon claire et précise. Et malgré cela, ils ne sont pas revenus au Seigneur. Ces 9, vous allez les reconnaître au passage, car ils sont tous bien de chez nous, C'est une expression de Suisse. On le dit en Suisse, ils sont bien de chez nous. Il va sans dire que, dit lépreux guéri, instantanément, ça a fait du bruit dans toute la région. Tout le monde en parle. Nous allons faire du journalisme interview. Nous allons partir à leur recherche, nous nous informons du nom et de l'adresse de ces gens, ce qui se fait sans peine, vu la notoriété de la chose. Nous frappons à leur porte et nous leur demandons pourquoi, ayant été guéris par le Seigneur, ils ne sont pas venus le remercier et se jeter à ses pieds pour se convertir à lui. Nous frappons à la porte du premier. J'emploie le micro qui fera résonance dans la salle. Le premier chez qui nous frappons répond à notre question en disant que... je n'y ai pas pensé. Et on s'aperçoit qu'il est sincère. Mais est-ce une excuse? Quand il est allé chez le médecin, il n'a pas oublié de le remercier et de le payer. Mais à Jésus, le grand médecin, qui l'a guéri sans lui demander d'honoraire, il a oublié de revenir lui dire merci. Que c'est étonnant. Le malade à l'hôpital n'oublie jamais de remercier l'infirmière qui le soigne pour un salaire. Mais à Jésus, dont la consultation et la guérison étaient gratuites, on oublie de lui dire merci. Ainsi, on a de la gratitude pour ceux qui se font payer, et on paie d'ingratitude celui qui donne gratuitement. Voyez-vous, cet homme est tellement occupé par la bénédiction qu'il a reçue qu'il en a oublié l'auteur de la bénédiction. Il l'a oublié. Il n'y a pas pensé. Un peu comme un enfant à qui l'on donne une friandise et qui oublie de dire merci. Nous avons tous reçu du Seigneur le soleil, la pluie en sautant, un cœur qui aime, un cerveau qui fonctionne, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, une âme qui vibre, mais qui ne vibre pas pour lui. Dans l'Épître aux Romains, il est dit « Ne sais-tu pas, ô homme, ne sais-tu pas que les bontés de Dieu te poussent à la repentance, il n'est pas dit « te pousse à la reconnaissance », non, à la repentance. Toutes les bontés de Dieu devraient nous pousser aux pieds de Jésus, comme le dixième lépreux. Quoi donc? Seul le malheur devrait nous y pousser? Le bonheur ne peut-il pas nous y ramener? Faudra-t-il donc que le Seigneur nous frappe et nous donne l'impression de moins nous aimer pour se faire un peu désirer de nous? Cet homme que nous questionnons dit peut-être, dit même qu'il n'a pas cru devoir le faire, et qu'après tout le Seigneur ne lui a rien demandé. C'est vrai que le Christ ne nous demande rien et qu'il nous donne tout, comme un enfant reçoit tout de ses parents. Mais quels parents n'ont pas chaud au cœur quand l'enfant... lors d'une promenade, leur cueille des fleurs de pissenlit en disant « Tiens, c'est pour toi. » Oui, ça fait chaud au cœur. Ah, que c'est triste quand on s'attache à la lettre, il ne me l'a pas demandé, et non à l'esprit de la lettre. Certains rétorqueront peut-être, mais pour être sauvé, et vous le dites si souvent, Fernand le Grand, il suffit de croire. Eh bien moi, je crois. Je crois chez moi. Tous les dimanches, je suis le culte à la télévision ou à la radio. Pourquoi me déplacer? Aller au culte, à l'église, quand j'ai tout chez moi, et parfois même de meilleurs messages que dans mon assemblée. Mes amis, il n'y a rien de Jésus-Christ dans ce christianisme à l'économie. Tout juste le désir d'en faire un minimum pour Dieu et un maximum pour soi. Dieu aurait pu faire un monde à l'économie. Il aurait pu faire une Suisse plate comme une crêpe, un monde sans papillons, sans pinsons qui chantent, sans couleur, sans parfum, sans rien, un monde plat, un monde terne. Ah, mes amis, si Dieu nous servait comme nous le servons, croyez-moi, nous serions bien mal servis. C'est avec un peu plus de peine que nous avons trouvé le deuxième lépreux. On a dû descendre dans les milieux interlopes de la ville, et on l'a retrouvé, attablé en joyeuse et douteuse compagnie, devant une impressionnante collection de bouteilles de vin. C'est le monde des affaires louches, du milieu, des hommes véreux, des transactions malhonnêtes, et ce n'est même pas la peine de l'interroger. La raison pour laquelle il n'est pas revenu à Jésus, c'est le milieu dans lequel il se trouve. Il est bien évident que là où il se trouve, Jésus ne peut pas être. Ce qu'il fait, Jésus ne peut pas l'approuver. Cet homme le sait d'ailleurs très bien, alors il n'a pas insisté. Il a fait son choix, un choix déplorable. Il vend son éternité pour un petit avantage, un petit plaisir passager, et il a décidé froidement d'en supporter les éternelles et irréparables conséquences. Ah, mes amis, il y a des endroits, des amis, des ambiances, des choses qu'il faut quitter si l'on veut revenir à Jésus-Christ pour être sauvé. Il y a toujours un choix à faire entre Christ et Barabbas. « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» avait dit Ponce Pilate. Et aujourd'hui comme autrefois, entre Christ et les faux plaisirs, entre Christ et le monde, il y a toujours un choix à faire. Mais que ce choix ne vous retienne pas davantage de revenir à Jésus. Le Seigneur ne vous met pas à l'index. Écoutez-le dire. Où sont les nœuds vôtres? Où sont ceux qui ont droit à une si grande part d'héritage? Ce n'est pas un Christ qui tonne, c'est un Christ douloureux, qui ne veut pas que ses bras se referment sur le vide. Il y a encore de la place pour quelqu'un dans le cœur et dans les affections du Seigneur. Alors, tandis qu'il y a encore de la place, revenez à lui. Nous allons à la recherche du troisième lépreux, on a son adresse et on frappe à la porte. Bonjour, bonjour, c'est vous le lépreux guéri par Jésus? Oui, nous sommes des journalistes évangéliques et on voudrait savoir pourquoi vous n'êtes pas revenu à Jésus, vous qui avez été si extraordinairement guéri par lui. Et cet homme répond: « Oh, vous savez, moi, je ne crois pas vraiment en lui. »« Comment? Vous ne croyez pas en lui? Non. »« Et pourtant, vous avez crié, aie pitié de moi. »« Oui, bien sûr que j'ai crié. »« Les autres ont crié, moi j'ai crié avec eux. »« Vu la situation dans laquelle j'étais, mais j'aurais crié à n'importe qui. »« Ah, comme c'est encore vrai. » Quand les avions passent et que les bombes tombent, quand la mort vous regarde dans le blanc des yeux, quand la maladie vous frappe, c'est incroyable comme les prières refoulées naissent alors spontanément. « Seigneur, au secours !» Et une fois le danger passé, on retombe dans l'ornière. Il semblerait que celui qui peut tout dans l'épreuve ne puisse plus rien quand le danger est passé. Ce troisième lépreux, sentant le reproche dans notre question, s'écriera: « Mais enfin, ce Jésus, c'est un guérisseur. Pourquoi voulez-vous que je m'attache à lui? Je ne m'attache pas au médecin qui me soigne. Quand je passe devant un calvaire, je fais le signe de la croix. » Un peu paraît-il comme Voltaire, qui se découvrait en passant devant un calvaire, et qui disait à son disciple, qui s'en étonnait, « On se salue, mais on ne se cause pas. » N'est-il pas bien de chez nous, ce troisième lépreux? Je ne crois pas vraiment en lui. On demandait un jour à un ami de Suisse aussi, voyant la jolie petite église, c'était un bijou cette église, quelqu'un lui a demandé « Mais vous allez à l'église ?» Oh, il a dit « Surtout pas ». On lui a dit « Mais pourquoi, vous êtes en froid avec le pasteur ?» Oh non. Alors pourquoi vous n'y allez pas ? Il a répondu, oh, vous savez, l'Église, c'est un peu comme les pompiers. On n'aime pas s'en servir, mais on aime les savoir tout près. C'est un peu ça. Oui, je crois pas vraiment en lui, mais on aime quand même le savoir tout près. On va à la recherche du quatrième. Nous frappons. Bonjour. Dites-nous un peu, guéri comme vous l'avez été de cette terrible situation, pourquoi n'êtes-vous pas revenu à Jésus ? Et il nous répond, je n'ai plus besoin de lui. J'ai eu ce que je voulais avoir, et maintenant, ben, c'est fini. C'est vrai que ça se passe encore comme ça aujourd'hui. On a eu ce qu'on voulait avoir, c'est fini. Certains jeunes gens, naturellement, désirent se marier. Oui, mais avec qui ? Avec des filles qui ont pratiqué le mariage à l'essai, X fois et avec n'importe qui. Et comme ils savent que dans les milieux évangéliques, il y a encore des filles bien qui n'ont pas jeté leur virginité aux orties, alors on vient aux réunions. On fait semblant d'écouter la prédication, alors que l'esprit est ailleurs. Et on fait toutes les promesses pour avoir la fille. On ira bien sûr à la réunion tous les dimanches et en semaine, et on lira la Bible à la maison, on fera la prière à table, c'est promis. Et une fois le mariage célébré, terminé les réunions et les promesses, plus rien, on a eu ce qu'on voulait, comme le quatrième lépreux, on n'a plus besoin de Jésus. Vous n'avez plus besoin de Jésus ? Et s'il vous prenait au mot ? Car si vous n'avez plus besoin de lui, lui non plus n'a plus besoin de vous. Or, il a votre vie, votre souffle dans sa main. Et s'il se désintéressait de vous comme vous vous désintéressez de lui ? Car il est faux de croire qu'on a seulement besoin du Seigneur pour passer les caps difficiles de la vie. C'est là un bien mauvais calcul, car il y a un jour qui approche, c'est le jour du jugement. La Bible dit qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et si vous ne retournez pas à Jésus dans cette vie, vous ne retournerez pas à lui dans l'autre. Tel vous aurez vécu sur la terre, tel vous vivrez dans l'éternité, avec Christ dans cette vie, avec Christ dans l'autre, sans Christ dans cette vie, et sans Christ, sans Dieu et sans espérance dans l'éternité. Nous allons maintenant voir le cinquième et nous frappons. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est vous le lépreux guéri ? Oui, c'est moi. Nous sommes les journalistes évangéliques. Pourquoi ? Nous vous le demandons, pourquoi n'êtes-vous pas revenu à Jésus qui vous a guéri ? Et cet homme-ci fait l'intelligent. Il joue l'intellectuel. Il essaie de nous impressionner avec des mots ronflants. Il prend un air pincé et dit, voyez-vous, quand j'ai pensé aux implications, j'ai refusé de m'engager plus loin. C'est ce qui arrête beaucoup de gens. Ils ne veulent pas se convertir parce qu'ils se demandent où cela va les conduire. C'est ça les implications. Mais voyons, mon ami, si un premier contact avec Jésus vous a apporté la guérison, un deuxième ne pouvait que vous apporter d'autres bénédictions. Vous refusez d'aller plus loin, mais c'est d'aller plus loin dans le bonheur que vous refusez. Jésus, c'est tout. C'est la paix, c'est le pardon, c'est le ciel, c'est la communion, c'est l'éternité, c'est la source des eaux vives. Jésus, c'est le bonheur. C'est d'aller plus loin dans le bonheur que vous refusez. Imaginez qu'un jeune homme tombe amoureux de la plus jolie fille qui soit, qu'il la fréquente, qu'il se fiance, qu'on parle de mariage, et que tout à coup il dise à sa fiancée, « Tu sais, tu es une fille formidable, j'ai tellement été heureux dans mes fiançailles avec toi, que je ne sais pas où ça va me conduire. J'ai peur des implications. Ce bonheur promis me fait tellement peur que c'est fini, on ne se marie pas. » Il y aurait de quoi se dire, « Mais c'est pas possible, il est louvetin, il est déphasé, le gars. » Imaginez que j'ai été invité à prendre un repas, et je l'ai justement été invité hier, ce midi, pardon, et que, m'adressant à la famille qui m'a si bien reçu, avec ayant mis les petits plats dans les grands, je dise, « Madame, c'est tellement succulent que la suite du repas m'effraie. » Elle se dirait certainement, « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du côté du foie ou de l'estomac. » Mes amis, si on ne veut pas aller plus loin avec le Seigneur, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui ne tourne pas rond du côté du cœur. Et c'est là justement que le Seigneur voudrait apporter sa guérison. Il faut aller plus loin avec lui. Et même si le Seigneur vous disait ce qu'il a dit à ce jeune homme, « Laisse les morts enterrer les morts, viens, suis-moi », si même il nous disait ce qu'il a dit à un autre, « Va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi », si même il disait, « Laisse tes plaisirs, laisse tes amis, viens, suis-moi », il vaudrait la peine de tout laisser, de le suivre. Je crains très fort que si vous ne vouliez pas aller plus loin avec Jésus, vous ne soyez obligés de faire l'expérience inverse, c'est d'aller plus loin sans Jésus. Et c'est là que vous découvrirez la terrible implication, c'est-à-dire être allé si loin que vous ne pouvez plus faire demi-tour. J'en veux pour preuve un homme qui a été avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, et un jour il en a eu assez, il a fait le demi-tour. Et Judas, car c'est lui, est allé si loin dans l'autre sens que quand il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, il a voulu faire le demi-tour. Et il n'avait plus devant lui qu'une corde avec un nœud dans lequel il a passé la tête. Il était allé trop loin sans Jésus. Et c'est là la terrible implication. Allons voir le 6e lépreux, et nous frappons à sa porte. « Monsieur, c'est vous, oui, c'est vous, c'est moi, etc. » Il nous dit que il ne peut pas retourner à Jésus parce qu'il ne peut pas renier sa religion. Et il nous dit, vous comprenez, dans la famille, de père en fils, depuis toujours, on fait les choses comme ça. Il y a une tradition derrière nous. Et retourner à Jésus, mais ce serait une trahison. Ah, celui-là, il est bien de chez nous. Mais mon cher ami, si pour retourner à Jésus, il vous faut renier votre religion, c'est que votre religion ne suit pas Jésus, c'est évident. Et si pour rester fidèle à votre religion, il vous faut renier Jésus, c'est qu'elle n'est pas celle de Jésus, même si elle en porte le nom. Et puis, ce n'est pas à une nouvelle religion que vous êtes invité à revenir, et vous êtes invité à venir à Jésus, pas à un homme, pas à nous, pas à moi, mais à Jésus. C'est lui qui a porté vos péchés, c'est lui qui vous a aimé, c'est lui qui a versé son sang pour vous pardonner vos péchés, et c'est à lui que vous aurez à rendre compte un jour, pas aux hommes. Alors, pourquoi ne pas venir à Jésus? Nous allons trouver le 7e, et lui est plutôt du type lâche. Bonjour, monsieur, bonjour. Pourquoi, monsieur, n'êtes-vous pas revenu à Jésus? Eh bien, nous dit-il, avec un regard fuyant, je n'ai pas osé me compromettre. Comment? Comment? Oui, j'ai pas osé me compromettre. Comment? Vous n'avez pas eu peur qu'on vous voie avec les lépreux, et vous avez peur qu'on vous voie avec Jésus? Comme c'est étrange, rien n'a changé. Les hommes n'ont pas peur qu'on les voie entrer dans un lieu douteux, dans un débit de boisson. Ils n'ont pas peur qu'on les voie en compagnie d'hommes véreux, qu'on les voie fréquenter la prostitution, les maisons closes, les manifestations gays, les cinémas porno. Mais ils auront peur qu'on les voie mettre les pieds dans une église évangélique, dans un lieu après tout respectable, où l'on parle du plus grand des hommes qui ait jamais passé sur cette terre. Mais, je le dis avec une certaine verve, mais pourquoi les blâmerais-je? N'ai-je pas, moi aussi, été aussi lâche que lui, dans les mois qui ont précédé ma conversion dans ma ville? Il y avait un petit groupement, une bonne dizaine de personnes qui se rassemblaient pour lire la Bible. Et je me souviens que quand je suis entré là pour la première fois, moi qui me croyais si fort, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, pour voir si on ne voyait pas entrer cette lâcheté. J'en ai encore honte aujourd'hui, et j'en ai demandé pardon à Dieu. Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans la gloire de mon Père et avec ses saints anges. Nous en sommes au 8e lépreux. Nous frappons à sa porte, il l'ouvre, et on n'a pas le temps de lui poser une question. C'est vous, oui, entrez donc. Et il se met à parler, avec une volubilité plus que méridionale, un peu à la façon des témoins de Jéhovah quand ils viennent vous parler. Pas moyen d'en mettre une, de glisser un mot dans une conversation qu'ils font tout seuls. Lui aussi en est là. Ah, que je suis heureux! Le ciel est parfumé, la lumière est si pure, il cite Lamartine. Je vais de fête en fête, on me salue, on me félicite, on me porte en triomphe. On attend qu'il reprenne sa respiration pour lui demander « Et Jésus ?» Et il ne trouve pas un mot pour nous répondre. Ah oui, c'est le lépreux qu'on félicite, qu'on porte en triomphe. Mais Jésus, lui, on le laisse dans l'ombre. C'est la victoire de Jésus qu'on célèbre, mais on a bien soin de ne pas citer son nom. Ce sont les avantages sacrés qui nous ont été gagnés par le Seigneur, mais nous les traitons comme profane, le jour du dimanche, les jours fériés de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de Noël. Qu'est-ce que le dimanche aujourd'hui, le jour du Seigneur, pensez donc. Mais non, c'est le jour du tiercé, c'est le jour de la sauterie, du pique-nique. Noël, qu'est-ce que c'est? Une vulgaire interruption, un bon gueuleton, une sauterie, et à minuit, une halte, une minute quand même, pour écouter un disque, minuit chrétien, qu'on n'écouterait pas si la musique était moins belle. Ah, mes amis, nous vivons intensément les avantages qui nous ont été gagnés par Jésus, mais lui, on le laisse dans l'oubli. Le Christ est absent de ses conquêtes, et nous les utilisons à notre profit personnel. Nous détournons l'usage des victoires de Jésus-Christ. Et s'il nous reprenait ce qu'il nous a donné? Nous faisons la fête sans lui? Et s'il faisait la fête sans nous dans son ciel? Si Dieu s'intéressait aussi peu à nous que nous nous intéressons à lui, il y aurait bien peu de sauvés dans son ciel. Ainsi, on fait la fête de Jésus, mais on ignore Jésus. Et nous en arrivons ainsi à notre 9e et dernier lépreux. Nous frappons à sa porte. Bonjour, monsieur, bonjour. Nous sommes des journalistes évangéliques. On voudrait savoir pourquoi, ayant été touché par une telle grâce, vous n'êtes pas revenu à Jésus. Et il nous répond. J'aurais bien voulu revenir à Jésus, mais je sais que je ne pourrais pas tenir. Je n'ai pas une petite idée du Seigneur, et je sais que je ne pourrais pas vivre à la hauteur de ce qu'il attend de moi, et je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas jouer la comédie de la repentance aujourd'hui, sachant bien que demain, je vais recommencer ma vie de patachon. Peut-être, s'il l'avait connu, aurait-il cité Baudelaire. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toute notage. Non, non et non, de cette hypocrisie, je n'en veux pas. Il ne veut pas parce qu'il croit qu'il ne pourra pas tenir. Et vous pensez peut-être comme lui, et en tout cas moi, je l'ai pensé pendant longtemps. Et si je ne me suis pas converti plus tôt, c'est à cause de cette pensée-là. Je ne pourrais pas tenir. J'aimerais que vous regardiez le ciel ce soir, la lune, ou bien le soleil, les étoiles qui sont là-haut dans le ciel. Par quel prodige ces masses énormes tiennent-elles toutes seules? Qui les a accrochées sur leur orbite? Qui les maintient sur leur trajectoire? Celui qui soutient l'univers et qui lui imprime son mouvement, ne pourrait-il pas soutenir votre vie et lui imprimer un autre dynamisme? Celui qui peut guérir de la lèpre, ne pourrait-il pas garder de la souillure de la lèpre? Celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés, ne pourrait-il pas vous garder de la puissance du péché? Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Alors, donnez à Jésus-Christ l'occasion de faire pour vous ce que vous n'avez jamais pu faire. C'est vrai que vous ne pouvez pas tenir, mais ne dites pas qu'il ne peut pas vous tenir. Moi, je sais une chose. C'est que je n'aurais pas pu tenir 24 heures. Même mon père, à ma conversion, m'a lancé le défi. On se retrouvera dans un an. Ça fait des décennies que ça tient. Et si ça tient, c'est parce que il m'a tenu, car moi tout seul, je n'aurais jamais tenu. Alors, osez revenir au Seigneur. Faites comme le dixième. C'était un étranger, lui, un Samaritain. Il est revenu. Avec ses problèmes, avec ses questions, avec ses difficultés. Et il en avait peut-être plus que d'autres. Il est venu faire confiance à Jésus, et il n'a pas été déçu. Il y a longtemps que Jésus vous attend. Il y a longtemps que vous n'êtes pas revenu. Alors, et c'est ma dernière question, pourquoi ne reviendriez-vous pas aujourd'hui, comme le dixième lépreux, pour aussi vous entendre dire « Ta foi t'a sauvé ». Faites-lui confiance. Le début de la vraie foi, c'est de perdre confiance en soi, et c'est de commencer à la mettre dans le Seigneur. Voilà, j'ai fini. Nous allons avoir une minute de silence. Nous allons courber nos têtes, nous fermerons les yeux. Nous oublierons tout ce qui nous entoure. Et dans ce silence, nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion de lui parler. Et dans la prière, que je vais dire lentement, afin que vous pouviez la suivre, vous pouvez même intérieurement, vous pouvez la suivre, la redire, comme si elle était la vôtre. Si donc les mots vous conviennent, dites-lui maintenant, dites-lui, Seigneur. Seigneur, je viens. Seigneur, je reviens. Je sais que je ne tiendrai pas. Mais ce que je ne peux pas faire, dis-lui, Seigneur, ce que je ne peux pas faire, fais-le en moi. Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi aujourd'hui. Je te demande, sauve-moi aujourd'hui et tiens-moi demain et après-demain et tous les autres jours. Jusqu'à la fin. Seigneur, je te fais confiance. Je ne me fais plus confiance un seul instant, mais c'est à toi que je fais confiance. Saisis-moi. Saisis-moi et conduis-moi jusqu'au bout, jusqu'à la grande rencontre dans ton ciel. Merci de le faire, Seigneur, je m'ouvre à toi, je reviens à toi et je me donne à toi maintenant. Merci. Amen, Seigneur.